La sellette. Durant l'Ancien Régime, la sellette était un tabouret sur lequel étaient placés les prévenus. Cette pièce de bois, très basse, était taillée pour humilier l'accusé.
Bonjour, ici Marie et Jonathan pour l'émission de La Sellette, une émission sur la justice et surtout sur les violences judiciaires. Alors La Sellette, c'est d'abord un blog sur lequel on publie chaque semaine des chroniques d'audience, essentiellement de comparution immédiate, et c'est depuis le mois de juin une émission qu'on espère mensuelle à Canal Sud sur 92.2. Au cours de laquelle on va essayer de prendre un thème et de décortiquer un petit peu à l'aide de nos chroniques le thème. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder la vaste et épineuse question des expertises psychiatriques en audience de comparution immédiate. Mais tout de suite, pour commencer, une chronique d'audience.
La chronique d'audience s'appelle « Monsieur ne fait pas pitié, il fait peur », qui est une citation du parquet, comme souvent. Toulouse, salle des comparutions immédiates, avril 2022. Dans la salle, deux écrans ont été déroulés. L'un derrière les magistrats, l'autre en face d'eux, dans le dos du public. Apparaît une pièce de la prison de Saïs. Un homme en fauteuil roulant est amené. Il est assez loin de la caméra, on distingue mal son visage. Il sera jugé en visio pour des violences conjugales. Le tribunal n'est pas encore arrivé, l'homme ne voit pas le public, il attend. Il chantonne, il s'ennuie peut-être. L'avocate demande à s'entretenir avec lui. Elle a été désignée en fin de matinée et n'a pas encore pu le voir. La salle est donc évacuée pour la laisser en tête-à-tête, si on peut dire, en visio avec lui. Après 10 minutes, tout le monde peut à nouveau rentrer et la présidente et ses deux assesseurs arrivent enfin. L'audience commence classiquement. La présidente demande son identité et sa date de naissance au prévenu, qui répond « Pardon, je vous entends parler, mais je ne comprends pas. Attendez. » Il souffle vigoureusement sur le micro, bruit de tempête dans la salle, la présidente reprend la main. Bon, vous êtes né en Espagne en 1937, ce qui lui fait donc 85 ans. Et vous comparaissez pour des violences en récidive sur votre épouse. Le vieil homme n'entend rien, il tapote son casque et son micro pour améliorer la situation. Les grésillements sont insupportables. La présidente craque. Je fais le constat que je n'entends pas. D'autant plus que monsieur y met de la mauvaise volonté. Absolument, madame la présidente. Et c'est bien sûr une intervention du procureur, légion d'honneur bien en vue sur sa robe. La présidente continue. Le dossier n'est pas en état d'être jugé. Il manque une expertise psy qui est obligatoire étant donné que monsieur est sous curatelle renforcée. Le renvoi est donc imposé par la loi. Reste à savoir si l'homme attendra son procès en prison. Le procureur décoré commence ses réquisitions. Ce monsieur ne fait pas pitié, il fait peur. Et je ne suis pas surpris qu'il se conduise ainsi. On l'a condamné la dernière fois par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, donc CRPC, parce qu'on a voulu tenir compte de son âge. Mais il se moque de la justice. Il connaît l'angélisme de beaucoup de tribunaux et il pense « on ne me mettra pas en prison parce que je suis sur une chaise roulante ». Mais quand il boxe sa femme, il change de pièce en chantonnant. Et c'est vrai que le prévenu aime bien chantonner, il fredonne d'ailleurs pendant que les gens de justice parlent de lui. Dès le début de sa plaidoirie, l'avocate de la défense signale que le curateur du prévenu n'a pas été avisé de la date d'audience. Dans ces conditions, mon client ne peut pas décemment préparer sa défense. Mais bien sûr que si, c'est encore une intervention du prestigieux procureur. Non, maintient l'avocate de la défense. La présence du curateur est essentielle justement parce que le prévenu est une personne vulnérable. Il aurait apporté les pièces nécessaires, notamment sur la possibilité de trouver un logement alternatif. Le prévenu est en détention provisoire à Saïs et il devrait y rester parce qu'il n'y a pas eu l'expertise obligatoire avant la date d'audience. On sait que les conditions de détention à Seyss sont déplorables, notamment pour les personnes en situation de handicap. Elles ne peuvent pas se déplacer comme elles le souhaitent, parce qu'elles sont plusieurs dans la cellule à cause de l'étroitesse des portes, de l'absence de rampe d'accès. Elles voudraient continuer, mais la présidente en a marre. On ne va pas faire le procès de la maison d'arrêt de Seyss. L'avocate persiste. « Je dois bien le dire, » dit-elle. Et sa femme est effondrée par son incarcération. Elle ne voit aucun inconvénient à ce que monsieur revienne dans le logement. Sa place n'est pas en prison. L'avocat de l'épouse, partie civile, abonde dans le sens de la défense. Ma cliente est mariée avec lui depuis 66 ans. Elle ne souhaite pas divorcer. Elle se fait un sang d'encre. Elle ne comprend pas où est son mari. Oui, c'est avec elle qu'il se dispute, mais c'est aussi son soutien au quotidien. Oui, c'est houleux, c'est compliqué. Mais il n'est pas sous curatelle renforcée pour rien. Il est tout simplement grabataire. Et on a osé dire qu'il chantonnait pour se moquer. Pendant que le tribunal délibère, le prévenu continue de chantonner en visio. Le procureur finit par aller voir la greffière pour essayer de couper le son. Il n'y arrive pas. Retour des délibérations. La présidente annonce « Il n'y a pas de preuve dans le dossier que le curateur a été avisé de la date d'audience. » En attendant donc le procès de juin, le tribunal ordonne la remise en liberté compte tenu de l'absence de curateur pour le débat. Pendant tout ce temps, le prévenu essaye de rebrancher les écouteurs et le micro. En disant « Je ne vous entends pas, je n'arrive pas à comprendre, j'ai entendu curateur !» La présidente lui répond « On ne va pas vous juger aujourd'hui, vous allez être libéré tout à l'heure. » « Ah !» Et j'ordonne une expertise psychiatrique. « Hein ?» Le prévenu met sa main derrière son oreille. « J'ai rendez-vous avec le curateur le 22. »« Oui, oui !» répond la présidente. « Vous pouvez signaler au surveillant que c'est terminé. »« Est-ce que vous m'entendez ? Je vous ai dit que j'avais rendez-vous le 22. » La greffière coupe la visio.
Alors, comme d'habitude, dans les chroniques de comparution immédiate, il y a une audience très courte et tellement de choses à en dire, tant la violence judiciaire qui s'exerce dans ces salles a de multiples facettes. Là, ce qu'on peut voir, là, qui est assez atypique, c'est l'utilisation de la visio, c'est une audience en visio depuis la maison d'arrêt de Seyss, et c'est aussi le fait que la personne a été relâchée. Ce qui est là, en revanche, malheureusement très commun, c'est qu'une personne a été placée en détention provisoire parce qu'il manquait une expertise psychiatrique au dossier. Car oui, en fait, la loi impose dans certains cas le fait qu'il y ait une expertise psychiatrique. Ça concerne un certain type de personnes, les personnes qu'on appelle les majeurs protégés, qui sont placées sous sauvegarde de justice, donc c'est un dispositif qui est censé les protéger. On parle de gens placés sous curatelle renforcée ou sous tutelle. Eux, ils ne peuvent pas être jugés s'il n'y a pas eu une expertise psychiatrique. Ensuite, la loi prévoit aussi une expertise psychiatrique obligatoire en considération de certains faits, et notamment elle est obligatoire pour tout ce qui est fait d'agression sexuelle, qu'on peut voir en comparution immédiate. Et à côté de ces expertises qui sont obligatoires par la loi, il y a toujours effectivement la possibilité, soit pour l'officier de police judiciaire pendant la garde à vue, d'estimer qu'elle est nécessaire parce que la personne est manifestement en état de souffrance psychique. Elle peut être aussi demandée par l'avocat, elle peut être aussi sollicitée par les magistrats, et là, c'est à leur libre appréciation, est-ce que oui ou non, elle est opportune.
Du coup, quand il y a expertise psy en comparution immédiate, théoriquement, elle devrait être faite en garde à vue. Donc il faut déjà s'imaginer un peu les conditions. En général, on sait que l'expert vient là au commissariat et s'entretient avec la personne pendant quoi 15 minutes, 30 minutes, je pense, rarement, jamais une heure, quoi. Peut-être une heure de temps en temps, mais rarement. Et par ailleurs, on connaît les conditions. L'entretien va se dérouler entre deux auditions auprès des policiers, avant ou après la prise d'empreinte. La personne a passé une ou plusieurs nuits dans les geôles du commissariat, ça peut être à toute heure du jour ou de la nuit. On imagine dans un état de très grande vulnérabilité. Et en fait, les conditions sont à tel point mauvaises que chez les experts eux-mêmes, les experts psychiatres eux-mêmes, il y a beaucoup de polémiques autour de ces expertises en garde à vue. Parce que certains considèrent que les professionnels consciencieux devraient refuser de faire ça. qu'à la limite, s'il doit y avoir un psychiatre en garde à vue, ça devrait être exclusivement pour dire si oui ou non la garde à vue est compatible avec l'état psychique de la personne et voire ordonner une hospitalisation d'urgence. Par exemple, et juste pour le plaisir, on va lire un extrait d'un expert psychiatre qui s'appelle Daniel Zaguri, pas exactement un camarade, et qui écrit un texte très énervé dans La Gazette du Palais, qui est déjà tout un programme comme nom.
En contradiction avec la position déontologique de la profession, obéissant servilement aux injonctions de certains parquets, au point d'avoir été affublé du sobriquet de « cireur de parquet », ces praticiens, qui n'ont souvent aucune expérience médico-légale, répondent en quelques minutes à des questions concernant la responsabilité pénale ou le pronostic lointain. Faudra-t-il un jour en publier le bêtisier, sous couvert d'anonymat, pour que cesse ce scandale médico-légal et déontologique ?
Ouais, Zaguri est vraiment pas du tout content.
Je crois que l'article s'appelle d'ailleurs « Expertise psychiatrique, une honte française ».
Bien souvent, l'expertise ne peut pas avoir lieu en garde à vue, parce que par manque d'experts psychiatres, on y reviendra, et dans ces cas-là, en fait, elle a le plus souvent lieu en détention provisoire, c'est-à-dire en prison. Là encore, on ne va pas prétendre que les conditions sont incroyables. La personne va être appelée au parloir avocat, parce que de toute façon, quel que soit son interlocuteur, ce sera toujours au parloir avocat, que ce soit l'avocat lui-même, bien sûr, mais aussi l'expert psychiatre.
Un policier, un gendarme, pour l'entendre. La personne, en fait, elle est prévenue qu'elle a un parloir au parloir avocat. Elle pense naïvement que c'est son avocat. Et en fait, pas du tout, ça peut être l'expert psychiatre. Donc cette personne qu'on va extraire de sa cellule, cellule quand même, on rappelle, de 9 mètres carrés, dans laquelle elle est enfermée 22 heures sur 24 et à 3. On l'extrait de sa cellule, et là, se présente à elle, non pas son avocat, mais un expert psychiatre.
Et on va pas se raconter que ça se passe très différemment qu'en garde à vue, peut-être que ça dure éventuellement un peu plus longtemps. Ce qui est certain, c'est que les rapports sont identiques ou à peine plus longs que ceux qui sont faits en garde à vue. Donc on disait que souvent ce qui déclenche le renvoi automatique et la détention provisoire quasi automatique, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'expert, qu'il n'y ait pas eu de... que l'expertise n'ait pas été faite en garde à vue parce qu'il n'y a pas assez d'experts. On ne sait pas trop pourquoi il n'y a pas assez d'experts. En tout cas, on ne sait pas trop. Eux se plaignent, entre autres choses, de ne pas être assez rémunérés pour faire ça. En l'occurrence, ils sont payés 372 euros par expertise.
Il faut savoir que au tribunal judiciaire de Toulouse, on a vu... alors, la faute à cette pénurie d'experts, hein, peut-être. Mais on a certains qui trouvent ça très bien, les 372 euros, et qui y accourent. Quitte à venir, par exemple, sans interprète, alors que la personne détenue ne parle ni ne comprend le français. Et ça ne les empêche pas, pour autant, de rédiger une expertise.
On va vous lire une deuxième chronique, dans laquelle, là aussi, comme la première, l'expertise psychiatrique était obligatoire, mais qu'elle n'a pas été faite en garde à vue.
Toulouse, chambre des comparutions immédiates, avril 2021. Premier dossier de la journée, 14h. La salle se remplit doucement. Des avocats viennent tour à tour se présenter à la greffière. L'estrade où les juges s'installeront est encore vide. Les deux détenus sont amenés dans le box en plexiglas avant que le tribunal arrive. Thomas B. est né à Toulouse, il y a une trentaine d'années, tandis que Yacine M. est né au début des années 80, en Tunisie. Ils comparaissent pour trafic de stupéfiants. La compagne de Thomas B. et un de ses amis lui adressent de grands gestes de réconfort et d'affection. Le tribunal n'arrive toujours pas. Tout le monde commence à trouver le temps long. Un avocat âgé peste à mi-voix. Les gens de justice s'agitent, virevoltent, parlent fort, rient. Dans le public, l'ambiance est plus morose. Un homme regarde devant lui, les yeux dans le vide. Un autre consulte son portable. Une femme au premier rang se tord nerveusement les mains. Enfin, la cloche sonne. Le président entre, suivi de deux assesseuses. Comme toujours, il commence par interroger les prévenus sur leur état civil, mais peine à comprendre ce que lui dit Thomas B. qui finit par baisser son masque pour essayer de se faire mieux entendre. Mal lui en a pris. Il se fait reprendre sèchement. Remettez votre masque sur le nez. Espiègle, son avocat baisse immédiatement le sien. Le président lui jette un coup d'œil mais ne dit rien. Il pose à Thomas B. la question rituelle. Veut-il être jugé aujourd'hui ou préfère-t-il obtenir un délai pour préparer sa défense ? Avant qu'il ait pu répondre, son avocat signale que le renvoi est obligatoire. Thomas B. est sous curatelle. Dans ce cas-là, la loi oblige le parquet à ordonner une expertise psy avant l'audience. Or, cette expertise n'a pas été faite. Mécontent de cette intervention, et rancunier peut-être, le président indique avec froideur qu'il ne l'ignore pas, mais veut quand même lui poser la question. Après tout, c'est lui le président. Yassine M., quant à lui, veut être jugé aujourd'hui, ce qui pose la question de savoir si on peut juger les deux prévenus séparément. Au regard de la connexité des faits, comme il dit, le procureur estime que les affaires ne doivent pas être disjointes. Il demande à ce qu'elles soient toutes les deux renvoyées et qu'entre-temps, les prévenus soient placés en détention provisoire. Pour justifier de les envoyer en prison, attendre une expertise qui aurait déjà dû être faite par ses services, il invoque paresseusement les deux motifs prévus par la loi pour solliciter une incarcération. Il s'agit, dit-il, d'être sûr que monsieur se présente à l'expertise psychiatrique. Qu'est-ce qui peut bien lui faire penser que, libre, Thomas B. ne s'y rendrait pas ? Cela doit paraître trop évident au procureur pour qu'il se donne la peine de l'expliquer. Par ailleurs, il convient d'écarter tout risque de réitération des faits, dit-il. Étant donné le dénuement dans lequel se trouvent les deux hommes, ils risquent évidemment de se livrer à nouveau au trafic de stupéfiants. L'avocat de Yassine M. souhaite bien sûr que la négligence du parquet n'empêche pas son client d'être jugé aujourd'hui. Il explique que les irrégularités dans la procédure et notamment dans la manière dont se sont passées la perquisition et la saisie devraient lui permettre d'obtenir l'annulation de la procédure et la relaxe de son client. Le président, décidément en veine d'autorité, lui demande d'abréger. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les détails. L'avocat de Thomas B. s'indigne à son tour. La loi est claire. La détention provisoire doit être exceptionnelle et ne peut être utilisée qu'en dernier recours. Et pour être sûr qu'il fasse son expertise, on va le mettre dans un lieu où la dignité de l'être humain est piétinée, on va l'entasser dans un endroit où ils n'ont plus de place depuis longtemps. Le tribunal a délibéré. Il estime que les prévenus doivent être jugés ensemble. L'audience est donc renvoyée un mois plus tard. Les deux hommes attendront en prison. La compagne de Thomas B. s'effondre en pleurs. L'idea di vedere i tuoi occhi, di abbracciare la nostra creatura, che mi diede la forza e il coraggio di andar contro la natura, di sorridere agli infermieri, di pesare ogni parola, e alla notte ogni grido che usciva, ricacciarmelo dentro in gola. E qualcuno poi disse, guarda lì l'agitato, passati 8 mesi, sembra un po' migliorato. Fu l'idea di vedere i tuoi occhi, di giocare con la bambina, che mi fece ingoiare in silenzio ogni loro medicina, e mi diede la forza e il coraggio di rispondere senza urlare al dottore che aveva schedato la mia malattia mentale. Quel giorno venisti col tuo abito a fiori, mi prendesti la mano, mi portasti di fuori la voglia di uscire si trasforma in voglia di pane, nel discorso era sempre lo stesso, proprio fra 2 settimane. Imparai a riconoscere presto dietro quello strano impaccio, una legge senza parole, fredda e dura come il ghiaccio. Quella sera ricordo, tu dormivi al mio fianco, ma la stanza girava e di colpo fui stanco. Sempre le stesse facce a legare questo mio male, la stessa iniezione nel braccio a portarmi in ospedale, con lo stesso soffitto imbiancato, con gli stessi scarabocchi, dove ormai la paura e il silenzio nascondevano i tuoi occhi. E qualcuno poi disse, guarda lì l'agitato, passati 8 giorni e c'è già ricascato.
Du coup, cette expertise, Bah, y a quoi dedans ? En fait, il faut savoir que l'expert est censé répondre à des questions qui lui ont été envoyées par le parquet ou par le juge. Donc les questions, normalement, c'est à la discrétion du magistrat, mais globalement, c'est à peu près toujours les mêmes. On va vous en lire une classique avec les questions qui sont habituellement posées dans ce genre de situation. L'examen du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychiques ?
L'infraction qui est reprochée est-elle ou non en relation avec de telles anomalies ?
L'intéressé présente-t-il un état dangereux au sens psychiatrique ou criminologique ? Et il faut là énumérer les éléments de pronostic favorables ou défavorables.
Le sujet est-il accessible à une sanction pénale ?
Le sujet est-il curable ou réadaptable ?
Son discernement ou le contrôle de ses actes était-il aboli ou altéré au moment des faits qui lui sont reprochés ?
Donner son avis sur l'opportunité d'imposer au sujet une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
Et enfin, les troubles présentés par le sujet sont-ils de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes et imposent-ils son hospitalisation d'office ?
On voit bien là que ce sont des questions existentielles et invraisemblablement vastes. Le sujet est-il curable ? Le sujet est-il soignable ? Est-il réadaptable ? Et on rappelle encore une fois que l'expert doit répondre à ces questions après un entretien d'un quart d'heure ou 30 minutes dans des conditions déplorables, le plus souvent dans des geôles, enfin systématiquement dans des geôles ou dans une prison.
Ça fait 4 minutes par question. Bon, et là, ce qu'on voudrait faire, c'est rentrer dans le détail sur deux points, même si toutes ces questions sont en elles-mêmes très problématiques. C'est la question de l'abolition ou de l'altération du discernement et celle de la dangerosité.
Qu'est-ce que c'est que le discernement ? C'est la capacité de l'esprit à distinguer ce qui est bien, vrai et permis de ce qui est mal, faux et défendu. Et là, on a une idée qui est très ancienne dans la justice, qu'on ne juge pas les fous. La personne qui n'a pas de discernement ne peut pas répondre de ses actes devant la société. On peut le dire autrement, ne peut être puni que la personne qui comprend ce qu'elle a fait, qui a consciemment transgressé la règle. C'est-à-dire que quand un psychiatre déclare le discernement aboli, il considère qu'on ne peut pas reprocher à la personne la faute commise, parce qu'elle n'est pas considérée comme responsable et qu'elle ne peut donc pas être condamnée à une peine. Alors, plus ça appelle plusieurs remarques de dire ça. Déjà que c'est malgré tout un peu plus compliqué que ça, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais aussi que ça pose que certainement la personne n'est pas accessible à une peine. En revanche, ça pose immédiatement pour l'institution judiciaire la question de l'hospitalisation d'office. Et ça nous rappelle d'ailleurs la dernière question que Jonathan lisait. Les troubles présentés par le sujet sont-ils de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes ? Et imposent-ils son hospitalisation d'office ? Et pour illustrer ça, on va vous passer l'enregistrement d'une de nos chroniques, qui s'appelle « Au bon soin de la justice ».
Le tribunal ?
Toulouse, chambre des comparutions immédiates, septembre 2022. C'est la rentrée, la salle est remplie d'apprentis juristes qui discutent orientation. Et t'as pris quoi comme option ? Mohamed H., 42 ans, est amené dans le box. Un jour d'août, il a menacé plusieurs personnes avec un couteau. Il est en détention provisoire depuis plus d'un mois, le procès ayant été renvoyé d'office faute d'expertise psychiatrique. La présidente demande au prévenu pourquoi il a menacé une dame croisée dans le métro. C'est ces gens qui attaquent les personnes vulnérables, des gens qui viennent de l'Est. Murmure scandalisé du côté des étudiants et des étudiantes, tandis qu'il continue fébrilement ses explications. Si j'ai sorti un couteau, c'est pour lui faire peur, parce que je me sentais en danger. Mais comment, cette jeune femme qui ne vous connaît même pas, pourrait-elle représenter un danger pour vous ? Pas cette dame, mais les deux personnes qui arrivaient derrière elle. Ils me visaient. Je ne l'ai pas touchée. Le même jour, il y a eu un autre incident. Vous vous êtes arrêté devant deux jeunes femmes assises à un café. Vous avez échangé des mots et le ton est rapidement monté. Là aussi, vous sortez un couteau. Deux serveurs et deux clients interviennent. Je travaille dans le bâtiment. C'est un couteau pour manger des sandwichs, pas pour agresser les gens. J'ai sorti le couteau quand les deux grands costauds sont arrivés. J'avais peur, Il me menaçait. Les personnes qui sont intervenues l'ont ensuite poursuivi, arrêté et ont appelé la police, non sans l'avoir tabassé au passage, sans doute emporté par l'héroïsme. La présidente lit l'expertise enfin arrivée. Mohamed H. est atteint de psychose chronique et souffre de délire hallucinatoire de persécution. Il est suivi depuis très longtemps par un psychiatre et prend un traitement neuroleptique. L'expertise conclut à l'abolition du discernement. Le prévenu n'est pas responsable pénalement. En revanche, elle n'estime pas qu'une hospitalisation forcée soit nécessaire du moment qu'il recommence son traitement. Celui-ci a été interrompu 2 mois auparavant, quand Mohamed H. s'est installé à Toulouse pour le travail. Il explique ne pas avoir pu se procurer des médicaments. Je suis allé 3 fois en août aux urgences psychiatriques, à côté du commissariat. Il n'y avait pas de psychiatre, il fallait attendre 1 mois et demi pour avoir un rendez-vous. La présidente le rassure vertueusement. Il n'y a pas de honte à subir des problèmes psychologiques. J'ai aucune honte. La procureure ne conteste pas l'abolition du discernement et l'irresponsabilité pénale de Mohamed H., mais trouve apparemment que c'est quand même un petit peu de sa faute. Vous êtes malade. Il ne faut jamais, jamais, jamais arrêter votre traitement. Si vous avez besoin de soins et de médicaments, il faut que vous les preniez. Ces excellents conseils prodigués, elle réclame une hospitalisation d'office. Il serait irresponsable de laisser monsieur partir libre. Même si elle reconnaît que, selon l'expert, son état ne l'exige pas du moment qu'il est pris en charge à sa sortie de prison et qu'il voit un ou une psychiatre. Mais l'hospitalisation sous contrainte m'apparaît indispensable. Sa dangerosité est avérée et évidente, et son casier judiciaire porte la trace de nombreuses violences, sans compter que cette mesure garantira la continuité des soins. Et encore un qu'on enferme pour son bien. Expertise à l'appui, l'avocate bataille contre l'hospitalisation d'office. Le traitement est suffisant pour juguler son comportement et le faire se comporter de manière quasi normale, quasi adaptée. Elle rappelle aussi qu'il est suivi depuis de nombreuses années et qu'il a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous avec un psychiatre avant sa crise d'août. Or, dans ce genre de situation, on sait comme l'adhésion aux soins est importante. Et il est entouré par sa famille, notamment par sa sœur, qui fera en sorte qu'il respecte ses obligations. Il est déclaré coupable, mais pénalement irresponsable en raison de ses troubles mentaux, ce qui ne l'exonère pas de payer 1 500 € en réparation du préjudice moral à la femme agressée dans le métro. En outre, la présidente ordonne l'hospitalisation d'office. Cela ne doit pas être pris comme une sanction. Cette mesure permet de protéger la société et aussi de s'assurer qu'il n'aggrave pas son cas et aussi qu'il bénéficie d'un traitement. Le prévenu hoche la tête d'un air triste et résigné. Dans la salle, les conversations reprennent joyeusement.
Et alors, la licence 2 ?
Voilà, là encore, on va faire quelques commentaires sur cette chronique d'audience. Bon, la première, c'est qu'effectivement, l'expert psychiatre qui a vu le prévenu a déclaré que le discernement du prévenu était aboli. C'est une chose qui n'est pas si fréquente, on va revenir dessus. Et je pense que si là, c'est arrivé, c'est parce que le prévenu a un gros dossier médical qui existe déjà, qu'il se fait suivre lui-même depuis longtemps par son propre psychiatre, et qu'il a déjà un diagnostic. Ce diagnostic, il existait avant l'examen, avant l'entretien avec l'expert psychiatre, vraisemblablement, et dans son dossier médical, dire que Mohamed H. est atteint de psychose chronique et souffre de délire hallucinatoire de persécution. Voilà. La deuxième remarque qu'on voudrait faire, c'est que, et plus anecdotique, c'est qu'il y a, pour nous une forme de bizarrerie, c'est-à-dire qu'il est déclaré irresponsable pénalement, donc on considère que son discernement a été aboli, qu'il n'est donc pas responsable des faits commis, mais néanmoins, il est condamné à des dommages et intérêts qu'il doit payer. Donc, il y a une forme, enfin, en tout cas, à titre personnel, on y voit là une forme de contradiction. La dernière remarque qu'on voudrait faire, c'est que l'expert psychiatre lui-même considère que l'hospitalisation d'office n'est pas obligatoire. En revanche, on voit bien qu'on a bien entendu que la juge l'ordonne malgré tout.
Elle précise d'ailleurs, et ça c'est intéressant, c'est que, comme on disait, quelqu'un qui est irresponsable pénalement, ben, il peut pas subir de peine. Et donc là, il y a une nouvelle catégorie, une catégorie ancienne, de mesures qu'on appelle des mesures de sûreté. Et la présidente prend bien soin de lui préciser, attention, cela ne doit pas être pris comme une sanction. Cette mesure permet de protéger la société. Bon, j'imagine que pour lui, il n'a pas trop vu la différence.
Now tell me, when did you first notice this?
When I was just a child, I was really wild. Now I can't stand the pace, I'm a psychiatric case. Every day is worse, soon I'll need a hearse to take me from this place, I'm a psychiatric. Doctor's diagnosis suggests acute neurosis. The only cure he knows is to take up growing roses. Psychoanalyze me, doctor. Psychoanalyze me, doctor, please. Doctor, please. Doctor, look into my mind. I'm a psychiatric case. I blame it all on Freud, that my mind's been destroyed. But I kinda like your face, I'm a psychiatric. A doctor's diagnosis suggests acute neurosis.
Alors voilà, ça c'était les cas d'abolition du discernement. Et en fait, jusqu'au début des années 90, il n'y avait que deux possibilités à la suite d'une expertise. Soit le discernement de la personne était déclaré aboli, et donc la personne était déclarée irresponsable pénalement, soit la personne était considérée comme pleinement responsable. Pas de demi-mesure en fait, en quelque sorte. Et finalement, c'est le code pénal Badinter, entré en vigueur en 1994, qui a introduit une troisième possibilité, la notion d'altération du discernement. Ça correspondrait au cas où la personne elle est atteinte de troubles psychiques, que c'est un peu pour ces raisons qu'elle a commis les faits qu'on lui reproche, mais que ces troubles psychiques, ils n'ont pas totalement aboli son discernement ou sa compréhension de la situation. Un président de chambre de comparution immédiate à Toulouse a résumé la situation ainsi. Pas tout à fait normal, sans être fou allié. On vous en propose un extrait de lecture.
Un mois et demi plus tôt, Diego N. a touché les fesses de deux femmes dans le hall de la gare, alors qu'elles regardaient les horaires de train sur les écrans dans un moment d'affluence. Arrêté le lendemain, il est en détention provisoire depuis. Le procès a été renvoyé deux fois pour attendre une expertise psychiatrique obligatoire dans les cas d'agression sexuelle. Dès son arrivée à la prison de Seis, il a eu un gros incident à la suite duquel il a été placé à l'isolement, puis transféré à l'UHSA. L'UHSA, c'est une unité hospitalière qui assure les missions de soins psychiatriques pour les personnes détenues. Donc voilà, après un mois et demi de détention provisoire, l'expertise psychiatrique est enfin arrivée. Donc le président de la chambre de comparution immédiate en lit des morceaux en diagonale. Célibataire, sans enfant, il lit, « Vous auriez une fille. » Là, il s'arrête de parler. « Sans enfant avec une fille. On voit bien la cohérence. » Déjà là, il commence un peu à rire de la situation. Il continue à lire cette expertise qui signale d'importants troubles du comportement et lit l'anecdote suivante. À Seyss, il a attaqué un surveillant avec deux fourchettes et a expliqué ensuite avoir voulu faire comprendre à la pénitentiaire que son co-détenu était innocent. Le président s'amuse beaucoup. Deux innocents dans la même cellule. Il fait cette plaisanterie parce que le prévenu lui-même ne reconnaissait pas les faits. Il continue la lecture du rapport d'expertise, avec visiblement beaucoup de plaisir. Vous dites que votre père est un homme célèbre, que vos parents sont propriétaires de châteaux au Portugal. Et puis vous urinez dans votre cellule. Et quand on vous interroge là-dessus, vous dites qu'il pleut à l'intérieur. L'expert observe aussi, je cite, « un état de grande exaltation, des idées de grandeur et un état maniaque ». Il n'a pas eu de relation sexuelle avec une femme depuis 20 ans, il est volubile et ne supporte pas qu'on lui coupe la parole. L'homme qui est dans le box ce jour-là a l'air complètement sonné, vraisemblablement par les médicaments, on a du mal à l'imaginer volubile. L'expert conclut donc à un état d'altération du discernement au moment des faits et à une dangerosité psychiatrique qui justifie une hospitalisation sous contrainte. Mais le prévenu reste selon lui, je cite encore, accessible à la sanction pénale. Là, le président conclut. Voilà, monsieur, c'est ce que le docteur dit de vous. Vous n'êtes pas tout à fait normal, sans être fou allié, quelque chose du genre. Voilà, donc le tribunal part délibérer. Bon, il y a eu évidemment auparavant, mais on vous épargne ça, les réquisitions du parquet et la plaidoirie de l'avocat. Donc le tribunal, revenu des délibérations, annonce le résultat. Il retient l'altération du discernement et condamne le prévenu à 6 mois de prison, dont 4 mois assortis du sursis simple. Le président explique « Vous n'êtes pas maintenu en détention, mais vous allez rester dans un établissement de soins ».
Il faut savoir que pendant qu'il avait été placé en détention provisoire, le préfet avait pris un arrêté d'hospitalisation d'office, donc il avait été finalement transféré à l'hôpital psychiatrique.
Le prévenu a du mal à comprendre la sentence. L'avocat et le traducteur expliquent trop longuement au goût du président qui finit par intervenir. « Bon, on ne va pas s'étendre beaucoup plus, ça veut dire qu'il n'est plus innocent. Mais ça n'est pas tout, monsieur le traducteur, écoutez la suite, c'est important. » Et de fait, il annonce ensuite l'inscription au FIGES. Le FIGES, c'est le fichier où sont inscrits les auteurs d'infractions sexuelles. Donc, il prononce l'inscription au FIGES et une interdiction du territoire pendant 3 ans, interdiction qui n'avait pas été demandée par le procureur. Et pour finir, le président conclut avec bonne humeur. Une fois les soins levés, il repart au Portugal.
Une fois de plus, dans cet extrait, on a l'impression que le magistrat ne peut pas s'empêcher d'humilier la personne qui est dans le box et de s'amuser de ses propos incohérents. Mais au-delà de ça, quels ont été finalement les effets de l'introduction de cette notion d'altération. On peut voir déjà un premier effet pervers, c'est que depuis l'entrée en vigueur de ce code pénal de 1994, il y a eu beaucoup moins d'abolitions du discernement qui ont été déclarées par les experts. En fait, ces derniers se sont un petit peu engouffrés dans cette possibilité, dans cette troisième voie, et ils ont prononcé beaucoup plus d'altération. Alors, pourquoi ? On ne sait pas trop, il y a des conjectures qui sont faites. Il y aurait une pression de l'opinion publique qui ne comprendrait plus, alors qu'elle le comprendrait avant, que des gens qui ont commis des faits graves ne soient pas sanctionnés par une peine de prison. Cette opinion publique, elle serait représentée par des associations de victimes qui feraient pression finalement sur l'institution judiciaire. On a aussi certains experts qui ont fait part de la peur qu'ils avaient de voir engager leur responsabilité. Ils ont, imaginons, déclaré quelqu'un d'irresponsable des faits qu'il a commis. Il part à l'hôpital, il en ressort, et puis il recommence ou il recommet d'autres infractions. Là, les experts auraient peur d'être mis en cause. Quoi qu'il en soit, plusieurs commentateurs ont noté cette diminution importante des abolitions prononcées du discernement.
On ne veut pas dire... cela dit, ça n'est pas à cause comme ça de la diminution du nombre d'abolitions déclarées par les experts psy qu'il y a de plus en plus de gens qui souffrent de troubles psychiques graves en prison. C'est parce que la prison elle-même génère des troubles psychiques et c'est en second lieu parce que la plupart du temps il n'y a tout simplement pas eu d'expertise du tout, pas de diagnostic du tout, quoi.
Oui, je crois qu'un récent rapport du ministère de la Santé, qui date de février 2023, notait que plus des deux tiers des personnes détenues en France étaient en souffrance psychique. Et je crois que c'est 30% en souffrance très grave, avec des diagnostics posés de schizophrénie, par exemple. Donc beaucoup plus que dans la population non incarcérée.
Une fois que l'expert a déclaré qu'il y avait altération du discernement, quels sont les effets de ce diagnostic sur la peine et sur les procès? En fait, on pourrait penser comme ça que ça jouerait un peu le rôle de circonstances atténuantes, que les personnes seraient condamnées à des peines moins lourdes parce qu'on considère que leur responsabilité n'est pas pleine et entière. C'est d'ailleurs peut-être un peu l'intention du législateur, parce qu'il a fait passer une loi en 2014 qui dit que les personnes qui sont déclarées, dont le discernement est déclaré altéré, n'encourent que les deux tiers d'une peine. On peut donner un exemple, par exemple, pour un vol simple, pas de circonstances aggravantes, pas de violence, pas de récidive. Juste, on vole quelque chose dans une voiture, la voiture n'est pas fermée, on ouvre la porte, on prend quelque chose, voilà. Et ben, pour un vol simple, la peine encourue est de 3 ans. Si le discernement du prévenu est déclaré altéré, le prévenu n'encourt que 2 ans de prison. On voit juste avec cet exemple pourquoi est-ce que cette loi de 2014 n'a pas vraiment changé grand-chose. C'est que les peines encourues sont tellement hautes que jamais elles ne sont approchées de si près par les peines réellement prononcées. Donc là-dessus, ça ne pouvait avoir aucun effet. Mais par contre, ce qui est frappant, c'est que non seulement les peines ne sont pas plus courtes quand le discernement des prévenus est déclaré altéré, mais elles ont même la réputation d'être plus lourdes. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a lu à plusieurs endroits sans avoir trouvé de chiffres précis. Je dois dire, en tout cas, que ça nous semble plausible, parce qu'au-delà des faits, on sait qu'en comparution immédiate, c'est le profil social aussi qui est jugé. C'est bien sûr le fait de ne pas avoir de travail, pas avoir de logement, pas avoir de papier, pas avoir de situation stable. Toutes ces choses qui font qu'aux yeux de l'institution judiciaire, on est considéré comme un profil inquiétant. Et du coup, c'est vrai que la notion de dangerosité, et ça va être notre dernier point, très très importante en comparution immédiate. Et on voit bien que les gens dont le discernement est déclaré altéré, au-delà d'être considérés comme des personnes malades, sont considérés comme des personnes dangereuses. Et c'est d'ailleurs le sens d'une des questions qui est posée à l'expert psychiatrique.
L'intéressé présente-t-il un état dangereux au sens psychiatrique ou criminologique? Et s'il vous plaît, énumérez les éléments de pronostic favorable ou défavorable.
I wanna go to hell, cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. It don't make sense going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black Tims and black hoodies. God'll probably have me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick licked. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit, I wanna tote guns and shoot dice. All my life I've been considered as the worst. Lying to my mother, even stealing out a purse. Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion. She don't even love me like she did when I was younger. Sucking on her chest just to stop my fucking hunger. I wonder if I died, would tears come to her eyes? Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. My baby mother's 8 months, her little sister's 2. Who's to blame for both of them? I swear to God I wanna just slip my wrist and end this bullshit. Throw the magnum to my head, threaten to pull shit. And squeeze until the beds completely red. I'm glad I'm dead, a worthless fucking Buddha head. The stress is building up, I can't believe suicide's on my fucking mind. I
wanna leave. I swear to God, I feel like death is fucking calling me. Calling nah, you wouldn't understand.
Nigga, talk to me, please, man.
You see, it's kinda like the crack did the Pookie in New Jack. Except when I cross over, there ain't no coming back. Should I die on the train track like Rainbow and Beach Street? People at the funeral fronting like they miss me. My baby mama kissed me, but she glad I'm gone. She know me and her sister had something going on. I reached my peak, I can't speak. Call my nigga Cheek, tell him that my will is weak. I'm sick of niggas lying, I'm sick of bitches hawking. Matter of fact, I'm sick of talking.
Avant de parler de la notion de dangerosité, on va d'abord faire passer là une dernière chronique d'audience qui s'appelle « Il faut demander de l'argent poliment ». Encore une fois, on reconnaît le parquet.
Le tribunal. On se lève, s'il vous plaît.
L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir.
Toulouse, chambre des comparutions immédiates, octobre 2021. Yves T., ivoirien d'une quarantaine d'années, se tient debout dans le box, l'air furieux. La présidente peine à lui imposer les règles de l'exercice. Vous devez vous asseoir et vous parler que quand on vous donne la parole. Ça ne marche pas très fort. Un examen psychologique est visiblement nécessaire. Mais il n'a pas été possible, compte tenu de l'attitude de monsieur, qui a refusé de répondre aux questions. Il existe, en revanche, une expertise établie en juillet 2020 qui a conclu à l'abolition du discernement. Elle en cite les conclusions. Monsieur est schizophrène, souffrant entre autres d'hallucinations auditives constantes. Il n'était pas accessible à une sanction pénale. À défaut d'une expertise pour cette affaire-là, la présidente propose, d'un air un peu embarrassé, que cette expertise serve de référence au tribunal sur ce dossier. Vient le rappel des faits. Yves T. faisait la manche devant l'hôpital Purpan. Des patients sont pleins de son agressivité. Un agent de sécurité est intervenu. Le prévenu l'a insulté, menacé de mort, puis a tenté de porter des coups. Il a même déchiré son t-shirt. Il est décrit par les témoins et les forces de l'ordre comme agité, instable, ne semblant pas jouir de toutes ses facultés mentales. Estimant qu'elle ne pourra pas interroger le prévenu comme à son habitude, la présidente innove pour contourner la difficulté. Je propose que son avocate réponde à la place de M. T. parce que c'est difficile d'obtenir quelque chose de lui. L'air très surprise, l'avocate se lève à demi. Mais le prévenu n'entend pas se faire priver de la parole si facilement. 10 ans que je suis en France, je n'ai pas de revenus. Est-ce que c'est interdit de faire la manche ? Il le répète en boucle et la présidente s'empresse de noter qu'il a l'air de fort bien savoir pourquoi il est là, ce qui, nuance-t-elle vertueusement, n'empêche pas qu'il ait par ailleurs des difficultés. Il a plusieurs condamnations sur son casier judiciaire, notamment pour des faits de vol et de violence. Jusqu'à l'affaire de septembre 2020, où il a été déclaré irresponsable pénalement et interné d'office à l'hôpital psychiatrique Purpan. Le prévenu continue à parler pendant ce temps. Et puis il reste debout, ce qui a l'air de déstabiliser la présidente. Elle lui répète qu'il peut s'asseoir. Elle finit par ruser.
Je dis ça pour votre confort.
Non, je suis sportif. Ne sachant plus quoi faire, elle durcit le ton. Les débats doivent se dérouler sereinement. Si vous continuez, je vous fais sortir. Il continue. La sécurité l'emmène de force, il proteste, et on l'entend vociférer longtemps après son départ, jusqu'à ce qu'une personne de la sécurité ferme les portes qui mènent aux geôles, restées entrouvertes. La procureuse commence son réquisitoire.
On doit demander de l'argent poliment. En plus, Purpan est aussi un hôpital pour enfants.
Il agresse des parents qui vont voir un enfant malade.
Elle insiste sur le fait qu'il doit être jugé comme pleinement conscient de ses actes. Contrairement à l'affaire de 2020, rien ne dit que le discernement est aboli dans cette affaire-là. Un expert aurait pu déclarer son discernement altéré, mais il ne nous en a pas laissé la possibilité, puisqu'il a refusé de se rendre au service médico-psychologique de la prison. Il a aussi refusé de rencontrer les enquêteurs chargés de faire l'enquête sociale. Je considère donc qu'il est responsable pénalement, étant donné que nous n'avons pas la preuve du contraire. Elle demande 9 mois ferme et le maintien en détention, au vu de son évidente dangerosité. Il n'y a qu'à voir ses nombreux passages en prison. Pour sa part, l'avocate d'Yveté était impatiente d'avoir une expertise. L'officier de police judiciaire indique qu'il tient des propos incohérents et refuse de rencontrer les experts. Ça montre bien qu'il y a abolition du discernement, sinon il aurait compris que c'était dans son intérêt de se faire examiner. À défaut de l'irresponsabilité pénale, il faut au moins considérer qu'il y a une altération qui doit amener à abaisser la peine. Très investie, la parquetière fait non de la tête d'un air mécontent. On entend le prévenu crier au loin. Derrière, une femme qu'il connaît commente avec sa voisine. C'était quelqu'un d'attachant, c'était un ami à moi, avant qu'il soit malade. Le tribunal revient de la salle des délibérés. On a ramené Yves T dans le box pour qu'il entende la sentence. La présidente le déclare coupable et le condamne à 5 mois de prison avec maintien en détention. Nous avons tenu compte de ses difficultés, mais l'absence d'expertise nous oblige à le considérer pénalement responsable. SDF, sans papier, sans aucune garantie de représentation, comment faire autrement ? L'avocate d'Yves T hoche la tête d'un air compréhensif. La présidente continue. Mais je vais remplir une notice individuelle qui demande son examen par un psychologue dès son entrée en prison. Entre-temps, quelqu'un s'est approché du box pour expliquer à Yves T sa peine. T'as pris 5 mois. Lui répète inlassablement. Je faisais la manche.
Alors là, voilà quelqu'un dont on sait qu'il souffre de troubles importants, qui a déjà été déclaré irresponsable. Mais comme il n'y a pas eu de nouvelle expertise psychiatrique, en fait, première chose, le tribunal va déclarer cette personne responsable au bénéfice du doute, un petit peu. C'est la présomption de responsabilité. Et finalement, la présidente va dire « oui, on a tenu compte de vos problèmes ». Alors finalement, faute d'expertise, il est donc déclaré responsable pénalement, un petit peu au bénéfice du doute. Et la présidente tient quand même à préciser qu'elle a tenu compte de ses difficultés, comme elle dit. Et sa manière d'en tenir compte, c'est de le condamner à 5 mois de prison avec maintien en détention.
Bien sûr que la notion de dangerosité a tout à voir avec cette peine. Sachant que cette notion de dangerosité, c'est de l'ordre de l'exercice divinatoire. Elle consiste quand même à se prononcer sur le risque que la personne commette plus tard des faits. Bon, toujours est-il que pour l'instant, elle n'a rien fait.
Et finalement, ça va à rebours d'une tradition qui est en soi pas exempte de critique, qu'on soit bien d'accord. Mais jusqu'ici, ou jusqu'à peu de temps, on considérait que la personne, elle devait être jugée pour des faits qu'elle avait commis, et pas pour des faits qu'elle pourrait commettre. Et donc on assiste avec ces notions de dangerosité psychiatrique, voire dangerosité criminologique, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On a même vu des experts psychiatres se prononcer sur la dangerosité sociale de la personne. Voilà comment on arrive à un glissement de punir pour prévenir d'éventuelles infractions qui pourraient être commises plus tard.
Il y a un dernier point qu'on voudrait aborder avant de finir. C'est des remarques qu'on a vues apparaître d'ailleurs dans plusieurs chroniques. Là, la présidente qui envoie le dernier prévenu en prison signale « Je vais remplir une notice individuelle qui demande son examen par un psychologue dès son entrée en prison. » La présidente a visiblement ici l'air de penser que la prison peut être un lieu de soins.
Et là, on ne peut que penser au docteur Cyril Canetti, qui a été pendant 25 ans praticien psychiatre à la Maison d'arrêt de la Santé à Paris, et qui nous parle de ce dévoiement. Finalement, l'idée avait été de considérer que les personnes détenues devaient bénéficier du même accès aux soins que les personnes en liberté. Et c'est petit à petit, dans les années 70, que sont rentrés les psychiatres en prison. Mais l'effet pervers de ça, c'est que finalement, les magistrats ont tendance à considérer que, du coup, c'est parfait. On peut très bien envoyer en prison des gens qui sont en très grande souffrance psychique, dans la mesure où il y a des psychiatres sur place qui pourront tout à fait les soigner.
Bah ça, c'est en soi un très vaste sujet qui fera peut-être l'objet d'une future émission.
Alors, on a bien conscience qu'on n'a pas traité l'ensemble des questions que soulèvent les interactions entre institutions psychiatriques et institutions judiciaires. On se propose peut-être lors d'une prochaine émission d'étudier plus spécifiquement la question des soins en prison.
En attendant, on se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois.
Et vous pouvez toujours lire nos chroniques chaque semaine sur le site lacellette.org.
Voilà.
Est-ce que le juge avait bien mangé ?
Comme le juge avait mal mangé, le premier prévenu fera un an de prison pour un porte-monnaie volé à une dame dans la rue qui sortait de sa maison. Pas de chance, pense l'avocat, on serait tombé lundi ou mardi dernier. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même un an, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le deuxième prévenu fera 2 ans de prison. À 20 ans, quelle idée d'emprunter la DS à injection d'un haut fonctionnaire en fonction. Pas de chance, pense l'avocat. Monsieur le juge, j'aurais mieux digéré. Mon client, c'est sûr, s'en serait mieux tiré. Quand même 2 ans, c'est un peu exagéré. Comme le juge avait mal mangé, le troisième prévenu fera 4 ans de prison. On ne vole pas quand on est étranger, sans permis de séjour et sans qualification. Comme le juge était fatigué, le dernier prévenu ira dormir en prison. Il attendra pour être jugé quelques jours ou quelques mois. Question d'organisation. Ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-di-da-di-do-da, ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-di-da-di-do-da, ti-da-da, di-di-di-do-da, do-do-da, di-da-da, do-do-di-da-di-do-da. Da da di 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 da 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 da